RCF.
Il est 7h30, l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Emmanuel Macron en route pour la Nouvelle-Calédonie.
Le président devrait arriver ce soir ou demain matin, heure de la métropole. Objectif de son voyage, renouer à tout prix le dialogue avec les locaux et instaurer une mission. On en parle dans un instant. Les tensions diplomatiques s'accentuent entre l'Argentine et l'Espagne, à tel point que Madrid a annoncé hier le retrait définitif de son ambassadrice de Buenos Aires. Pourquoi toutes ces tensions? Nous y reviendrons dans un instant. Et puis c'est un festival à 200 mètres du tapis rouge entre deux cas. C'est son nom, participe à la démocratisation du cinéma en faveur du handicap. Reportage en fin de journal.
Emmanuel Macron arrivera en Nouvelle-Calédonie ce soir ou demain matin.
Objectif de ce voyage pour le président, installer une mission, c'est ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement. Pour renouer le dialogue et accélérer le retour à l'ordre après plus d'une semaine d'émeutes. Émeutes causées par l'adoption d'une loi électorale contestée. Ces dernières ont endommagé les industries et commerces de Nouvelle-Calédonie. Alors sur place, les acteurs économiques attendent des actions fortes de l'État. Je vous propose d'écouter David Guyenne, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
La première chose, c'est indemniser les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard d'euros de destruction d'entreprises, de destruction de richesses. C'est juste colossal. Donc, la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas faire face à cette somme, à ce cataclysme seul. D'ailleurs, seul l'État pourra y faire face. L'État a les moyens, évidemment, financiers, mais elle a aussi les moyens techniques, elle a les compétences pour pouvoir d'abord régler cette période de retour à l'ordre. Ensuite, la transition le jour d'après, hein, comment on commence à réoccuper nos entreprises, comment on commence à refonctionner dans un mode dégradé, mais dans un mode acceptable. Et puis ensuite, évidemment, la reconstruction. C'est un véritable plan Marshall que l'État va devoir mettre en place, avec les Calédoniens, bien sûr, mais il nous faut une personne aux manettes, et cette personne aux manettes, selon moi, ne peut être que l'État.
C'est aujourd'hui que débute au Sénat l'examen d'une proposition de loi visant à renforcer l'arsenal de lutte contre les ingérences étrangères. Alors que sur l'archipel de Nouvelle-Calédonie, l'influence de l'Azerbaïdjan dans le contexte des récentes émeutes est dénoncée par le gouvernement. Registre national de l'influence, gel des avoirs financiers, surveillance algorithmique élargie. Plusieurs mesures phares sont soumises au Sénat dans le cadre d'une proposition de loi macroniste, déjà largement adoptée à l'Assemblée nationale à la fin du mois de mars.
Tout autre chose, les syndicats vent debout contre la réforme de la fonction publique.
Oui, ils étaient reçus hier par la ministre de tutelle, par leur ministre de tutelle, pardon, Stanislas Guérini. Une nouvelle réunion de concertation au sujet de la suppression des catégories A, B et C, du licenciement pour insuffisance professionnelle et des économies sur les salaires. La réforme exposée il y a un mois doit être mise en œuvre à l'automne prochain. Mais ce matin, pour les négociations, quatre syndicats ont refusé de participer aux discussions. La CGT, FO, FSU et Solidaires. Pour Bruno Leveder, secrétaire national de la FSU, la réforme est floue et incohérente.
Nous sommes opposés à la suppression des catégories statutaires. Ce n'est pas du tout des enfermements dans les cases, ça permet de classer les différents corps à des niveaux hiérarchiques et donc de garantir finalement d'avoir des carrières comparables en fonction du type, du niveau de responsabilité exercée. Et il nous semble que c'est quelque chose qui, au contraire, permet de la lisibilité et permet d'organiser, y compris les carrières. Et donc, effacer ces éléments de comparabilité, ça veut dire finalement que demain, il n'y aurait plus matière à faire des mesures générales et on irait regarder telle filière, puis une autre, etc. Non, très franchement, ce n'est pas sérieux.
Les syndicats regrettent le discours jugé peu séduisant du ministre alors que 70 000 postes sont toujours vacants dans la fonction publique. L'Ukraine obtient des résultats tangibles face à l'offensive russe dans la région de Kharkiv. C'est ce qu'a assuré Volodymyr Zelensky. Confronté depuis le 10 mai à une offensive russe de grande ampleur sur ce front, nos forces détruisent l'occupant. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky dans son discours hier soir. Depuis le début de leur offensive, les forces russes se sont emparées de plusieurs localités dans cette région frontalière de la Russie. Le ministre israélien des Affaires étrangères exhorte la France à dénoncer la demande du procureur général de la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Et puis une foule immense est attendue à Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien Ebrahim Raisi, tué dans le crash d'un hélicoptère ce week-end.
Les tensions diplomatiques s'accentuent entre l'Argentine et l'Espagne.
La situation déclenchée par des propos du président argentin Javier Milei portant sur l'épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s'est aggravée hier avec l'annonce par Madrid du retrait définitif de son ambassadrice de Buenos Aires. Une situation plus que tendue que nous explique Jean Duquesne.
L'ambassadrice restera définitivement à Madrid. L'Argentine n'aura plus d'ambassadeur, a expliqué le ministre des Affaires étrangères espagnol. La réaction de Javier Milei ne s'est pas fait attendre. Il a qualifié l'annonce du gouvernement de Pedro Sanchez de décision absurde d'un socialiste arrogant. Cette crise diplomatique inédite entre les deux pays a été provoquée par des propos tenus dimanche à Madrid par Javier Milei lors d'une convention du parti d'extrême droite espagnol Vox, dont il était l'invité d'honneur. Dans un discours, il a attaqué le socialisme, ce n'est pas la première fois, mais il s'en est aussi pris à l'épouse du Premier ministre espagnol, Begoña Sánchez, sans toutefois la nommer. Quand vous avez une femme corrompue, vous vous salissez et vous prenez 5 jours pour y réfléchir, avait dit Javier Milei. Ces propos ont été perçus comme une allusion claire à la récente décision de Pedro Sanchez de suspendre toutes ses activités durant 5 jours pour réfléchir à une démission après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour trafic d'influence et corruption contre son épouse.
Il est 7h36. Les relations entre le Saint-Siège et la Chine au cœur d'un colloque international hier au Vatican.
Le pape François et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ont à cette occasion tendu la main aux autorités chinoises en se montrant ouverts à une église catholique revêtant un visage chinois. François Mabi, chercheur au CNRS et à l'école pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire politique des religions à l'IRIS, nous en dit plus sur la nature diplomatique de ce colloque.
On peut dire que d'une certaine manière, à l'occasion de ce colloque, il y aura sans doute des rencontres informelles qui se dérouleront. Je ne dirais pas que c'est un exercice de paradiplomatie, mais ça en relève un petit peu. On se souvient que lors de son déplacement en Mongolie il y a quelques mois, le pape avait souligné qu'on pouvait être à la fois un bon catholique et un bon citoyen chinois. Cette fois-ci, il y a ce colloque qui manifeste l'intérêt de l'Église catholique et le long processus d'inculturation. La thématique, c'est encore celle-ci. On peut être à la fois chinois et catholique. Il s'agit sans doute de rassurer de nouveau le gouvernement chinois par rapport à une perception du catholicisme qui serait vue comme dépendant d'une autorité ou d'un État étranger. Ce colloque peut servir de lieu de discussion et permettre d'arrondir certains angles.
Et puis c'est un festival à 200 mètres du tapis rouge, Entre deux Cannes, c'est son nom, participe à la démocratisation du cinéma en faveur du handicap.
Plusieurs films sont diffusés, Stevlan Chezy-Gostovitch, et ça fait d'autant plus parler à l'heure où les acteurs du film Un petit truc en plus vont monter les marches après avoir lutté pour avoir des vêtements pour monter les marches sur la croisette.
Réalisatrice d'un film sur l'autisme, Aïcha Gambaza souhaite une démocratisation large des films sur le handicap.
On a énormément de travail à faire sur le handicap. Un, déjà, respecter les personnes en situation de handicap, les valoriser en leur permettant déjà de leur offrir des costumes pour monter les marches, de venir à ce type de festival qui est juste en face. Et c'est important qu'on médiatise et qu'on vienne voir ce type de film.
Mais regardons quand même le côté moitié plein du verre. Avec David Guillon, il est responsable du festival Entre deux Cannes, qui parle de handicap.
Ces dernières années, il y a des grands films qui ont été primés, de Rouillé d'Os entre autres, mais c'est de ça que ça parle. Et très souvent, les films primés à Cannes, de quoi parle-t-il ? De corps qui sont perturbés, façonnés d'une façon étrange, ou d'esprits qui sont extrêmement chahutés, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la maladie mentale, mais c'est un handicap.
Stéphane est en fauteuil roulant, il a assisté à un film sur le handicap visuel, et il recommande le cinéma pour apprendre les différentes formes de déficience.
On découvre à travers le handicap que... il y a une humanité qu'on n'imagine pas, que peut-être on ne voit pas. Quoi.
Un festival qui est appelé à se démocratiser dans plusieurs autres villes de France dans les prochains mois.
Et donc le cinéma populaire sera à l'honneur aujourd'hui à Cannes avec Pierre Niney qui montera les marches et puis bien sûr Artus avec le film Un petit truc en plus, c'est ce que disait Stevlan Chezy-Gostovitch.
Merci beaucoup Lucie, et pour les auditeurs de RCF, hein, chaque mercredi matin, peu avant 9h, Nous sommes avec Valérie de Marnac, notre chroniqueuse cinéma. Valérie qui est évidemment à Cannes et elle sera en direct de Cannes tout à l'heure. Elle fera un point sur le festival. Merci beaucoup Lucie Rispal. Un journal à réécouter sur le site rcf.fr.